Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
C'est pas du vent.
Vous l'avez appelé ?
Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, c'est une oasis. Un laboratoire à ciel ouvert niché en Normandie dans l'ouest de la France. La ferme du Bec-et-Loin, créée par Charles et Perrine Hervé-Gruyer, est scrutée par des scientifiques et des agriculteurs du monde entier. Sa productivité, sans aucun intrant chimique ni machine-outil, interpelle. Nous aurait-on menti ? L'agriculture industrielle ne serait donc pas LA solution pour nourrir le monde ? C'est déjà une évidence, puisque 80% de l'alimentation mondiale est produite par des paysans qui cultivent moins de 2 hectares. C'est pour eux et pour tous ceux qui seraient tentés par l'aventure agricole que Perrine et Charles innovent avec une règle d'or, imiter la nature. Tendez l'oreille, voici une leçon de culture.
Bonjour, je m'appelle Charles Hervé-Gruyer et je suis maraîcher, paysan bio à la ferme du Bec-et-Loin, en Normandie. On est situé dans l'ouest de la France, dans une région au climat plutôt océanique, réputée très verte et célèbre pour ses pommiers et ses vaches qui font du bon camembert.
On est abrité, ça tombe bien aujourd'hui parce qu'il fait extrêmement chaud, on est entouré d'une petite rivière, on entend le clapotis de l'eau au loin, les petits oiseaux, on est entouré de chaumières parce que c'est ici, à partir du début des années 2000-2003, que vous êtes arrivé. Vous n'aviez absolument pas de connaissances agricoles, on peut le dire.
Oui, j'étais auparavant marin et ma femme était juriste. Mais en tant que marin, j'avais un bateau-école, Fleur de Lampol, et j'ai eu l'immense bonheur de pouvoir voyager pendant 22 ans autour de la planète, beaucoup dans les pays du Sud. Et j'ai été beaucoup accueilli par des familles de paysans, plutôt sur les littoraux ou en milieu insulaire, et notamment pendant 15 ans chez les peuples premiers. Et pour moi, c'était une école de vie, une école d'humanité, une école de nature absolument géniale. Et je remercie toutes ces familles qui nous ont accueillis avec un cœur immense. Et j'ai énormément appris. Et partager la vie de ces paysannes et de ces paysans du Sud m'a donné envie de devenir paysan à mon tour, parce que je voyais cette intimité avec la nature dans laquelle ils vivaient, notamment les peuples premiers. Et au fond de moi, une voix criait, mais c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ce rapport harmonieux avec la planète, avec la nature. C'est ça que j'ai envie de vivre. Mais étant occidental, je suis revenu là où j'ai mes racines, en Normandie. Et en quelques années, ça ne s'est pas fait en un jour, je me suis dit, comment vivre ces valeurs de respect absolu de la terre-mère, de la nature, tout en étant chez moi, en Normandie, au XXIe siècle maintenant. Et la solution qui s'est imposée, c'était de devenir paysan. Parce que dans ma ferme, j'ai une forme de liberté. Je peux faire ce que je veux, si ma femme m'y autorise, évidemment. Et je voulais profiter de cette liberté pour inventer une vie qui corresponde à nos valeurs et qui, en même temps, ne nous coupe pas du monde contemporain.
Au départ, vous avez démarré tout petit, donc vers 2000, entre 2003, 2004, 2005. Et petit à petit, vous avez grossi. Aujourd'hui, quelle est la superficie de cette ferme ?
La ferme fait actuellement une vingtaine d'hectares. Mais il y a pas mal de bois, il y a 8 hectares de pré-vergers. En fait, la superficie qui est cultivée en maraîchage est toute petite. On a une partie qu'on appelle le cœur intensif de la ferme, est cultivée avec des buttes de culture permanentes. Je pense qu'on va expliquer tout à l'heure ce que
on c'est. On va aller voir.
Voilà. Et là, on a 1000 mètres carrés de buttes de culture permanentes. Et on a une partie de la ferme qui est cultivée en traction animale, et avec un cheval de trait et un âne. Et cette partie-là fait à peu près 6000 mètres carrés.
Et votre défi, c'est comment nourrir l'humanité tout en guérissant la planète. C'est ça votre philosophie, et c'est la philosophie que vous aviez dès le départ, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait, vous êtes arrivé dans cette aventure sans aucune culture agricole, donc sans chapelle, sans certitude, avec juste une envie de découvrir et de faire.
Absolument. Perrine, mon épouse et moi-même, on est des grands, grands, grands amoureux de la nature et de la planète. Perrine a beaucoup travaillé à l'étranger, en Asie notamment. Donc on était très sensibles aux grands enjeux d'aujourd'hui en termes de climat, de perte de biodiversité, de désertification, de malnutrition. Et du coup, on est devenus paysans en se sentant très concernés par ces enjeux globaux. Alors notre ferme est minuscule. Mais en même temps, on travaille sur ce tout petit lopin de terre en ayant en conscience les grandes thématiques et les grands dangers du monde d'aujourd'hui. Donc on cherche tout le temps des solutions qui puissent servir à d'autres.
Vous avez créé le concept d'éco-culture. C'est un mélange entre la permaculture, l'agriculture biologique, des inspirations aussi d'agriculteurs américains, coréens, japonais. Vous êtes allé chercher un petit peu partout ?
Absolument. Notre inexpérience du début a fait que les premières années ont été extrêmement difficiles. On était totalement naïfs, on n'avait pas de bagage technique, on a en plus des très mauvais sols ici qui étaient très pauvres et je dirais relativement impropres au maraîchage. Donc on a vraiment galéré beaucoup. On a cherché des solutions, on les a cherchées beaucoup à l'international, beaucoup grâce à Internet, grâce à nos lectures. Le fait de parler plusieurs langues nous a certainement aidés. Et du coup, ce qui se pratique ici, c'est une sorte de synthèse de bonnes pratiques qu'on a été glanées beaucoup dans les pays du Sud. Pour résumer la démarche, on essaye de prendre le meilleur du passé, le meilleur de différentes cultures, mais également le meilleur du temps présent, avec notamment, je pense, aux avancées scientifiques contemporaines dans le domaine des sciences du vivant, qui sont extraordinairement rapides. Et alors l'idée, c'est de faire une synthèse originale de tout ça, pour essayer d'inventer des solutions pour le monde de demain, pour sortir par le haut de cette crise écologique et sociétale dans laquelle on s'enfonce.
L'idée ici, finalement, c'est de créer un petit écosystème naturel, écologiquement intensif.
Voilà, vous avez parlé d'écoculture et j'ai oublié de la définir. En fait, c'est un concept qu'on n'a pas inventé nous-mêmes, il est né aux États-Unis. L'écoculture peut être définie comme une forme d'agriculture qui prend la nature pour modèle. Ce n'est pas du tout le cas de l'agriculture industrielle ou de l'agriculture conventionnelle contemporaine qui artificialise la planète et on s'en aperçoit maintenant qui crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc on a pu croire que les avancées scientifiques qui ont donné naissance à la révolution verte, etc., ont été un bienfait pour l'humanité. Parce que c'est vrai que les rations alimentaires par habitant ont cru, mais en fait, il y a eu un effet positif à relativement court et moyen terme, mais à moyen et long terme, au bout de quelques décennies, on s'aperçoit que cette forme d'agriculture crée des ravages, et en fait, on n'a pas enrayé la malnutrition, elle augmente plutôt, et on est de plus en plus nombreux sur une planète dont les ressources s'appauvrissent. Alors que l'écoculture est sur un postulat complètement différent. L'écoculture prend pour base que la nature est une experte qui a des milliards d'années d'expertise et de génie, que chaque écosystème naturel est un modèle qui peut nous inspirer et qui peut inspirer les paysannes et les paysans locaux en voyant comment la nature a réussi à prospérer dans chaque région. Eh bien, on peut trouver des solutions pour nourrir les humains, les êtres humains, sans dégrader la planète. Au contraire, ce qu'on a pu observer ici, et ça a été validé scientifiquement, c'est que on pouvait à la fois produire davantage de nourriture pour les êtres humains, sans pétrole, ou quasiment sans pétrole, et dans le même temps, régénérer en profondeur le milieu. D'où ce sous-titre de notre précédent livre, Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes. Et on a la conviction qu'on peut restaurer la fertilité des sols, protéger la biodiversité, stocker du carbone, tout en produisant beaucoup de nourriture. Et avec des technologies extrêmement simples et manuelles.
Alors on va mettre nos chapeaux de paille parce qu'aujourd'hui il fait un soleil de plomb et on va aller voir donc quelques-unes des techniques que vous avez élaborées ici pour essayer de les partager avec le plus grand nombre.
Allez, on est parti.
On va où là ?
On va aller dans ce qu'on appelle le cœur intensif de la ferme, c'est-à-dire cette région que vous apercevez de l'autre côté de la rivière, qui est toute couverte d'arbres, avec des mares qu'on aperçoit. Et je vous propose de commencer la visite sur l'île Jardin. On a créé une île Jardin.
Ici, il y a l'île Jardin, la forêt Jardin.
Absolument. C'est des environnements qui sont à la fois beaux, naturels et productifs.
Allons-y. Ah, attention, chien qui dort, deux chiens qui dorment, on ne va pas les réveiller. Et là, c'est un magnifique atelier que vous avez fait vous-même, en bois.
Oui, c'est un atelier qu'on a construit nous-mêmes avec du bois coupé dans notre forêt. J'avoue être passionné par les techniques d'artisanat. Donc je pense que les usines vont avec l'agriculture industrielle, mais les ateliers des artisans, des petits artisans locaux, vont avec une petite agriculture paysanne, familiale, locale. Donc on a fait nous-mêmes la charpente à la hache. Et là, vous apercevez des gerbes de blé avec des blés très différent parce qu'on vient de faire notre
moisson. On rentre dans l'atelier.
Et on a des blés très hauts, là, qui font... Moi, je fais 1m80, ils sont plus hauts que moi. Des blés plus courts, des blés barbus, des blés avec des épis non barbus. On a lancé un programme d'études sur le blé jardiné. C'est une technique très, très peu connue actuellement qui permet d'atteindre des hauts rendements avec une culture jardinée et manuelle du blé.
C'est quoi la différence ?
En fait, c'est que les Égyptiens, autrefois, dans l'Antiquité, les Égyptiens, les Romains, puis au Moyen-Âge, et en fait jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, donc jusqu'au milieu du XXe siècle, il y avait une tradition de cultiver le blé à la main, en plantant les grains très espacés, jusqu'à 40 cm entre chaque grain, ce qui peut paraître totalement aberrant par rapport aux techniques d'aujourd'hui, où on plante les grains beaucoup plus serrés. Mais les grains étaient sarclés, voire repiqués plusieurs fois de suite, ce qui leur permettait de taler. C'est-à-dire que chaque grain donnait un grand nombre de tiges. En enfouissant la base du plant, il émettait des nouvelles tiges. Et un seul grain de blé pouvait porter plusieurs dizaines d'épis. Il y a des sociétés savantes au cours du 19e siècle qui avaient fait des études. Ils pouvaient par exemple produire 170 kg de blé sur 200 m² seulement. Ça nous intéresse parce que dans une perspective de petite agriculture familiale ou d'autosuffisance alimentaire, ça veut dire que une famille peut cultiver son potager, avoir un verger pour ses fruits et éventuellement quelques poules. Et en même temps, un petit lopin de 200 m² peut permettre d'autoproduire ses céréales sans une goutte de pétrole.
Et là, votre atelier, c'est important aussi parce que vous fabriquez des outils. C'est low-tech ici.
Je suis un fou du low-tech. C'est-à-dire, le low-tech, ça veut dire les technologies les plus simples possibles. Je crois que notre planète est malade de cette course aux technologies compliquées qui sont énergivores et qui sont dispendieuses en ressources non renouvelables, alors que depuis des millions d'années, l'humanité a su vivre et très souvent bien vivre en valorisant tout ce qui pousse, tout ce qui vit, ce qu'on appelle la matière organique au niveau local. Je pense le bois, la peau, la corne. Bon, le fer n'est pas vraiment une ressource biologique, mais il est abondant. Et ayant vécu tant d'années chez les peuples du Sud avec leurs artisans, et notamment chez les peuples premiers, je voyais à quel point ces communautés vivaient très bien, sans, en étant tout à fait en marge d'une économie monétarisée comme nous, où on doit tout acheter, tout payer, jusqu'à l'eau qu'on boit, presque l'air qu'on respire. Donc on construit nos bâtiments, on fabrique des outils, on a même pu inventer des outils qui peuvent être très utiles pour des paysans d'Afrique ou d'ailleurs. Et du coup, on a la joie de se libérer de toutes ces chaînes de dépendance.
Très joli, hein ? Bois, fer uniquement, sont des beaux outils, en plus d'être basiques et utiles.
Eh bien, je dois avouer qu'il y a une quête de beauté dans notre ferme. Et notre porte d'entrée dans l'agriculture, ça n'a pas été une quête de haut rendement. C'était une quête de beauté et une quête d'harmonie. Et donc, si on crée une ferme LED, c'est qu'on n'est pas du tout en phase avec les modèles de la nature. On a conçu la ferme un peu comme un tableau, en plantant des arbres partout, en créant un maillage de mares, de jardins, de vergers, d'espaces un peu plus sauvages, en introduisant des animaux dans tous les interstices entre ces milieux. Et c'est vrai que la ferme est belle, enfin c'est ce que tout le monde nous dit.
Oui, quand on arrive, je confirme, c'est très beau.
Et du coup, la bonne surprise pour Payne et moi-même, c'est que la productivité nous a été donnée presque comme un cadeau de la nature. Et très vite, des scientifiques ont commencé à venir ici parce qu'ils avaient eu vent qu'au fin fond de la Normandie, il y avait au Bec-et-Loing une petite ferme qui, paraît-il, était plus naturelle et avait l'air productive. Et nous, on était avides de rencontres avec les scientifiques, n'étant pas nous-mêmes du tout des agronomes. Et alors, eux ouvraient des yeux ronds en arrivant ici. Nous, on était terrorisés parce qu'on était débutants en tour, en agriculture, en permaculture. Alors on se disait, mon Dieu, ils vont nous rire au nez. Et en fait, pas du tout. Visiteur après visiteur, ils nous confirmaient qu'il y avait des hauts rendements dans la ferme. Et assez vite est née l'idée de lancer des programmes scientifiques pour poser des repères sur cette nouvelle forme d'écoculture, essayer de voir si oui ou non elle est productive, est-ce qu'elle est bonne pour les sols, est-ce qu'elle est bonne pour le climat, est-ce qu'elle est bonne pour la biodiversité. Donc depuis 2011, on a mené 7 ou 8 programmes de recherche avec d'éminents chercheurs et qui ont pu valider tous les bienfaits de l'écoculture, tous les avantages qu'on a à prendre la nature pour modèle au lieu de la détruire. Alors, on va passer à cette petite barrière en bois. Là, il y a le four à pain. On a créé beaucoup de petits ateliers de transformation de notre production. On a une production très diversifiée. On produit des légumes, des fruits, des petits fruits, c'est-à-dire des baies, des courgettes, des
cassis. Oups, j'ai perdu mon chapeau.
La journaliste perd son chapeau. Et on a également des moutons, quelques animaux. On produit des fleurs comestibles, des plantes aromatiques.
Bonjour.
Alors voilà Perrine.
Bonjour.
La fermière.
Anne-Cécile, enchantée. Donc ça y est, vous avez accompagné votre fille qui est partie en vacances.
Voilà, ça fait partie du métier.
Ben, ravie de vous rencontrer.
Ben, de même.
Donc là, Perrine, on vous laisse aller travailler. Vous allez faire quoi?
Voilà, je vais aller récolter des tomates, des concombres, des courgettes, des betteraves, des choux raves, pas mal de choses en fait. Une grosse commande là qui se prépare.
C'est une commande pour qui?
C'est pour un prestataire qui fait des plateaux repas.
Parce que du coup, vous produisez et vous vendez, évidemment.
Voilà, tout à fait. Donc, on vend soit à ce prestataire-là, par exemple. On a aussi un restaurant comme client. Et puis, le vendredi, surtout tous les vendredis, hein, la boutique de la ferme est ouverte de 14h à 19h pour toutes les personnes qui veulent venir faire leurs achats. Donc, trouver nos fruits, nos légumes, le cidre, le jus de pomme, tous les produits transformés de la ferme. Et puis, bien évidemment, les ouvrages que l'on écrit.
Bon, on vous laisse et on vous retrouvera peut-être tout à l'heure au milieu des tomates.
Oui, à tout à l'heure.
Là, il y a un magnifique bâtiment. Alors, comme on est en Normandie, hein, tous les bâtiments sont en torchis et en bois. C'est caractéristique de la région.
Oui, c'est une région où il n'y a pas beaucoup de pierres, hormis du silex. Donc, les gens construisent avec de la terre et du bois. Ça, c'est notre centre de formation. Il a été construit totalement dans le respect de la tradition, mais c'est quand même un bâtiment bioclimatique qui fonctionne uniquement avec des énergies renouvelables. Il accueille nos stagiaires lors des sessions de formation parce que la ferme a plusieurs activités. Bon, il y a tout ce qui est production agricole, c'est le premier volet. Il y a tout ce qui est programme de recherche, un second volet. Et il y a aussi les formations et l'accompagnement, l'essaimage.
Et donc, tout le monde peut venir se former ici? Vous avez plusieurs sessions par an?
Oui, on propose des formations sur le maraîchage, sur les forêts et jardins et sur la création d'une micro-ferme.
À bon entendeur.
Alors, on voit les deux chiens qui sont en arrêt devant la mare. Ils sont en train d'observer les poissons qui vivent dans ces mares. Ces mares ont été entièrement creusées. Et puis là, il y a le petit pont qui va nous permettre d'aller à l'île Jardin. En fait, quand on regarde la nature, qui est donc notre modèle, rappelons-le, on voit qu'elle a toujours évolué vers des systèmes de plus en plus complexes. La vie va vers la complexité. Et d'ailleurs, tout l'univers va vers plus de complexité. Et nous, en tant que paysans permaculteurs, comme on prend la nature comme modèle, eh ben, c'est tout à fait normal que notre ferme devienne un milieu complexe, avec beaucoup d'éléments différents, beaucoup de niches écologiques. Mais on a tout à y gagner à cette complexité parce qu'en fait, elle nous facilite beaucoup la vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fonctions essentielles à la ferme qui s'opèrent toutes seules. C'est ce qu'on appelle les services écosystémiques. Et nous, on n'a plus à intervenir.
Par exemple ?
Par exemple, les vers de terre, les champignons, les bactéries du sol vont créer un sol fertile. Tous les auxiliaires utiles aux cultures, les oiseaux, les grenouilles, les scarabées, les couleuvres, les hérissons, vont manger les parasites ou les limaces et assainir nos cultures. La ferme est pleine d'abeilles également, sauvages. Il y a une étude qui a montré qu'on avait une quarantaine d'espèces d'abeilles sauvages qui sont d'excellentes pollinisatrices. Donc on a des cultures à plus haut rendement grâce à toutes ces petites abeilles. Donc on n'a pas de gros tracteurs, on n'a pas de grosses machines, mais on a plein de petits alliés comme ça, naturels, et qui nous rendent tout un tas de services essentiels.
Et est-ce que vous avez recours à quelques produits chimiques?
Ah non, pitié, pas ça. Non, non, on est en bio, hein, attention. Il n'y a pas de glyphosate, il n'y a pas de Roundup. Il n'y a jamais eu un gramme de produits chimiques d'utiliser dans notre ferme. On y met d'ailleurs notre point d'honneur. Hein. D'ailleurs, nous, on est venus à la ferme et à l'agriculture beaucoup pour des questions de santé. Et on a été thérapeute quelques années avec Perrine. Et on était conscient du fait que la nourriture, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui devient notre corps. On est ce qu'on mange. Nos corps sont formés de ce qu'on ingurgite jour après jour. Donc si on bouffe, excusez-moi, des saloperies, bah, notre corps va être dégueulasse, quoi. Et si on mange des aliments purs et sains, on aura la pêche, on sera en bonne santé et on aura un meilleur moral.
Écoutez, c'est pas du vent sur RFI, nous sommes en Normandie aujourd'hui, dans l'ouest de la France, à la ferme du Bec-et-Loing, une ferme pilote une ferme beaucoup regardée par les scientifiques et par tous ceux qui aspirent à une nouvelle agriculture. Et nous sommes en compagnie de Charles Hervé Gruyer, l'un de ses fondateurs. Et donc là, Charles, nous sommes arrivés sur l'île Jardin. C'est magnifique. En fait, c'est une île parce qu'on vient de traverser un petit pont. Il y a une petite rivière autour de nous. Et toutes les plantes ont été plantées en cercle sur des buttes. Expliquez-nous.
En fait, on a adopté le système de buttes de culture permanente, qui est un très ancien système, qui a été testé en Chine il y a 4000 ans, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Des espaces qu'on croyait être couverts de forêts primaires se révèlent en fait d'anciens espaces cultivés avec des buttes permanentes par les Amérindiens à l'époque précolombienne. Elle est attestée aussi en Afrique tropicale, etc. L'idée est extrêmement simple, c'est qu'on va prendre le premier horizon du sol, la couche supérieure du sol, qui est la plus vivante, qui est la plus fertile, on la pelte et on la met en tas, on fait des longues buttes, et on ne va plus toucher à ces buttes, si ce n'est un peu pour leur redonner leur forme, les décompacter, aérer le sol s'il y a besoin, mais on ne va jamais les piétiner. C'est-à-dire que là, devant nous, on a une culture de carottes. Eh ben, cette butte, elle est là depuis 10 ans.
Donc c'est une butte qui fait quoi ? 10 mètres de long, 1 mètre de large ?
1 mètre 40 à peu près, entre 1 mètre 20 et 1 mètre 40, pour pas que ce soit trop large. Et elle n'est jamais piétinée. Les allées qui l'encadrent sont permanentes.
Et au plus haut, une quarantaine de centimètres ?
Oui, à peine. C'est un système qui offre d'énormes avantages, parce qu'on a plus de profondeur de sol, on n'a que de la terre fertile, elle est beaucoup moins compactée. Et le fait de ne pas l'agresser par du labour, par des passages d'engins, permet, culture après culture, de la rendre de plus en plus vivante. Quand on récolte, on laisse les racines dans le sol et on cultive beaucoup plus dense. Les légumes sont beaucoup plus serrés.
Oui, parce qu'on n'a pas besoin de passer au milieu.
Voilà, nous, on la cultive en marchant autour. Donc du coup, on laisse une énorme quantité de matière organique, de biomasse, grâce aux racines dans le sol. Et ici, il y a une étude faite par l'université de Jean Blou en Belgique sur l'évolution de la fertilité des sols. En 10 ans, on est passé d'un très mauvais sol, très pauvre en nutriments et en matière organique, à un sol extraordinairement fertile. Et le sol de cette île stocke jusqu'à plus 10% de carbone organique par an. Ce qui est colossal. On est jusqu'à 26 fois au-delà des objectifs de l'INRA, ce qu'on appelle l'objectif des 4 pour 1000.
L'INRA, qui est l'Institut français de recherche agronomique.
Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à produire beaucoup, 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 mais j'irais même beaucoup plus que ce qu'on pensait atteignable. Et dans le même temps, on crée des sols fertiles.
Ce que je note aussi, c'est qu'évidemment, il fait très, très chaud. En France, on a une période de canicule en ce moment. Et ces buttes ont l'air humides.
C'est un système qui garde beaucoup mieux la fraîcheur, pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous pouvez le constater, là, sous ces petits chouraves violets, le sol est toujours paillé, couvert d'un paillis.
Ça, c'est une autre astuce.
Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est la mère nature qui est notre modèle. Et dans la nature, le sol n'est jamais à nu. Quand il est à nu, il est grillé par le soleil, il perd son eau. Donc on a un sol qui s'assèche, qui se compacte.
Un sol qui peut être balayé par le vent, la pluie et subir l'érosion, du coup.
Subir l'érosion. Là, si vous voulez bien approcher, j'enfonce ma main n'importe où, dans n'importe quel but, vous voyez. J'ai un sol qui est profond, qui est meuble, qui est noir, qui est granuleux, qui est très fertile. Qui sent le sous-bois, il sent bon le sous-bois.
Hein. Et qui est très très souple, vous avez enfoncé votre main facilement.
Voilà. Alors qu'avant, on avait un sol qui se compactait très vite.
Parce qu'ici, il y a 20 cm de terre et dessous le silex. Hein.
Voilà, c'est ça, on a à peine 20 cm de terre arable, entre 15 et 20 cm. Et en dessous, c'est que de la caillasse, que des cailloux. Alors là, du coup, nous on voyait visuellement que grâce à ce système, on arrive à créer 1 à 2 cm d'épaisseur de sol par an. La nature crée du sol. Mais elle le crée très lentement, c'est de l'ordre de 1 cm par siècle, voire 1 cm tous les 1000 ans. Et nous, quelque part, on accélère le processus. Qu'est-ce qu'on apporte ? Eh bien, on apporte toute la matière organique, c'est-à-dire la matière vivante qui pousse autour de nous. Donc ça peut être les roseaux de la mare, ça peut être la vase du fond de la mare, ça peut être la taille de nos arbres fruitiers, la taille des haies, ça peut être les restes de culture. C'est-à-dire que là, par exemple, on a récolté une culture, on a remis les tiges, les feuilles, en surface pour protéger le sol.
Poser tout simplement comme ça, c'est-à-dire vous ne faites pas de compost en tas.
On en fait un peu quand même, mais peu. Là, on a des tas de compost derrière nous, qui sont paillés aussi pour ne pas être lessivés. Ça peut être cette plante sauvage qui s'appelle de la consoude, qui pousse très vite et qui est très très riche en minéraux. Donc c'est une sorte d'engrais gratuit. Je la coupe et je la dépose et le tour est joué. Et nous ici, on cultive peut-être une centaine de légumes différents. On a plus de 600 variétés d'arbres fruitiers. On est vraiment dans un système complexe ici. Alors après, ce n'est pas un pur délire de néo-ruraux, hein, cette île jardin. Maraîchage vient étymologiquement de marais. C'est-à-dire que les cultures légumières se pratiquaient dans les espaces de marécageux, où il y avait de l'eau et une terre fertile, parce que les légumes ont besoin d'une terre très fertile. Et on s'est inspiré de systèmes traditionnels en France, comme les ortillonnages à Amiens, un grand système lagunaire qui a été cultivé avec des petites îles presque un peu artificielles depuis l'époque gallo-romaine, mais aussi des chinampas en Amérique centrale, qui étaient des jardins lacustres extrêmement fertiles et qui nourrissaient des villes avec des populations extraordinairement nombreuses. Donc il y a beaucoup d'avantages à jouer sur l'interface terre-eau.
Mais là, par exemple, le fait qu'on soit entouré d'eau, ça a une influence, je sais pas moi, sur le climat.
Absolument. Ben oui, par exemple, là, il y a la forêt-jardin qui est en fer à cheval autour de cette île. Elle l'abrite des vents dominants. Et les légumes n'aiment pas le vent. Et donc, elle contribue à faire un climat moins venteux. Il y a tous ces arbres qui sont plantés de manière un peu plus clairsemée dans le jardin, mais il y en a quand même. Ils tempèrent aussi un peu les variations climatiques. C'est-à-dire qu'il fait un peu plus chaud la nuit, et un peu moins chaud le jour. Ils apportent de la fraîcheur. Et puis, les mares, elles jouent un rôle de tampon thermique. C'est-à-dire qu'elles lissent aussi les écarts de température. Et pour nous, on est dans un climat où d'habitude il ne fait pas très chaud. Elle reflète une partie des rayonnements du soleil. Et du coup, on a un climat quand même plus chaud, plus humide, avec moins d'écart de température. Et tout ça contribue d'une manière naturelle à améliorer la productivité.
Il y a quelqu'un qui travaille à côté de nous.
Oui, c'est Stéphane. Stéphane est en stage ici pour devenir agriculteur.
On peut-être lui dire bonjour.
Ben oui.
Bonjour Stéphane, est-ce qu'on peut vous déranger quelques instants? Qu'est-ce que vous faites ici, en ce moment, à la ferme du Bec-et-Loing?
Moi je suis en stage dans le cadre de ma formation en brevet professionnel, de responsable d'entreprise agricole. Et donc là c'est une de mes périodes de stage, d'un mois et demi.
Vous avez décidé de devenir agriculteur?
Oui, de devenir maraîcher. Ça fait quelques années maintenant. Ouais.
Et pourquoi? Qu'est-ce que vous faisiez avant?
J'étais dans l'informatique. J'ai commencé comme développeur et puis j'ai travaillé dans l'informatique depuis une dizaine d'années.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de changer?
Pas mal de choses. Le bouquin de Charles et Perrine, le premier aussi, par exemple. Grosso modo, pour être plus raccord avec mes convictions personnelles. J'ai toujours fait un métier, quelque part, qui était éloigné de mes convictions personnelles.
C'est quoi vos convictions personnelles?
Que ce soit sur l'écologie, que ce soit sur l'aspect social aussi de mon travail, même sur le revenu que je dégage, la manière dont je dégage ce revenu.
Alors c'est dur d'apprendre à devenir maraîcher?
C'est dur, oui, c'est un métier assez exigeant, donc ça demande pas mal d'efforts physiques notamment. Après, il y a d'autres à côté qui font que c'est passionnant.
Vous allez vous installer prochainement?
On va dire dans les 2 ans qui viennent. On est en train de signer pour une ferme dans la Manche, sur la côte de la Basse-Normandie, la baie du Mont-Saint-Michel.
Et du coup, ici, vous êtes venu apprendre des techniques de Charles et de Perrine. Qu'est-ce qui vous a le plus intéressé pour l'instant?
C'est une méthode qui est décrite aussi dans les bouquins de Charles et Perrine. C'est qu'il y a plusieurs techniques qui sont employées ici. Beaucoup de techniques manuelles qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de fermes. C'est cet aspect manuel qui m'intéresse beaucoup. J'ai envie d'utiliser le moins possible les moteurs, le moins possible le pétrole. Et il n'y a pas beaucoup d'exemples en France.
On va vous laisser travailler. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire?
Je suis en train de récolter des betteraves et des choux raves.
Bonne récolte, merci beaucoup.
Merci à vous.
Vous en voyez beaucoup des gens comme ça?
On en voit plein. C'est fou, c'est un raz-de-marée. Et c'est à la fois réjouissant parce qu'on voit que on est de plus en plus nombreux à se sentir concernés par l'avenir de l'humanité, par l'avenir de notre belle planète. Et en même temps, c'est un peu terrorisant parce que périnément, on a contribué à donner une désirabilité à cette vie de paysan, une image positive du fait de créer sa ferme. Mais ces gens-là sont comme nous au début, pas formés, parfois un petit peu à côté des réalités du métier, voire très loin des réalités du métier, disons-le franchement. Et il va leur falloir un long parcours quand même pour apprendre à devenir paysan, parce que c'est quand même pas du tout facile.
Alors Charles, on continue la visite? On va où maintenant?
En fait, Anne-Cécile, il faut comprendre un truc, c'est que On a été découverte en découverte, nous, au fil de ces aventures techniques, conceptuelles, des programmes de recherche. La première étude qu'on a menée portait sur la productivité. Et on a pu constater qu'en travaillant totalement à la main, on produisait autant que nos confrères qui ont un tracteur, mais sur 10 fois moins d'espace. Donc avec beaucoup moins de frais généraux, moins de frais d'entretien, moins d'investissement. Donc on avait un meilleur revenu. Donc ça déjà c'était une bonne nouvelle de constater que travailler à la main, on était aussi productif qu'être un tracteur. Mais la deuxième bonne nouvelle c'est qu'on libère les 9 dixièmes de l'espace. Pour faire à peu près 30 000 euros de chiffre d'affaires avec, en maraîchage en France, bio, eh ben, il faut à peu près 1 hectare. Là on est sur une parcelle qui fait 1 hectare. Mais si j'avais un tracteur, ben j'aurais pas tous ces arbres, j'aurais pas tout ça. Tout serait avec un sol à nu, régulièrement travaillé, etc. Alors que là, on a des tout petits jardins très soignés, très productifs, et on a libéré 9000 m². Et du coup, à surface égale, on a un territoire qui est beaucoup plus diversifié, beaucoup plus productif, beaucoup plus résilient. C'est un changement de concept, mais radical. Ça n'a plus rien à voir avec une ferme bio motorisée.
Donc direction la forêt-jardin.
Oui. Quand on a découvert ce concept de forêt-jardin, on ne connaissait pas du tout, nous, parce que ça n'a jamais été pratiqué en Europe depuis le néolithique.
Un peu d'ombre, ça fait du bien.
Oui. En Europe, on a eu des formes d'agroforesterie sur 2 niveaux seulement, les oliveraies, les châtaigneraies, les prés-vergers, mais jamais sur plus de niveaux. Et le système de forêt-jardin, il vient des régions tropicales du globe, où la forêt domine partout, et où les agriculteurs, traditionnellement, ont créé des jardins forestiers, qui ont l'air un peu luxuriants, un peu sauvages, et où en fait on peut compter jusqu'à 200 plantes utiles aux humains, différentes. Alors des plantes comestibles, des plantes pour se soigner, des matériaux de construction, des matériaux pour l'artisanat. Et ce qui est formidable avec les arbres, c'est qu'ils poussent tout seuls une fois plantés. Il n'y a pas besoin d'engrais, d'arrosage, de travail du sol. Donc ils sont beaucoup plus naturels, beaucoup plus écologiques. Dit en passant, l'un des drames de l'humanité d'aujourd'hui, c'est qu'on se nourrit presque exclusivement de plantes annuelles, qui demandent beaucoup plus de travail du sol, beaucoup plus d'intrants et d'énergie.
Une plante annuelle, c'est une plante qu'il faut replanter tous les ans.
Voilà, et notamment nos céréales. Le riz, le blé et le maïs forment 60% de la nourriture de l'humanité aujourd'hui. Et c'est un drame, en fait. Si on se nourrissait davantage des produits des arbres, eh ben, notre impact sur la planète serait beaucoup plus léger. Ici, c'est ce qu'on appelle la mini-forêt-jardin, c'est-à-dire c'est un système un peu miniaturisé par rapport aux modèles tropicaux, et on l'a conçu pour tester sa productivité économique en termes de chiffre d'affaires. Parce qu'on a vite réalisé que si on voulait que des bonnes pratiques agricoles essaiment, eh ben, il fallait aussi démontrer leur efficacité économique. Sans ça, personne ne les utilisera. Donc on a des arbres fruitiers d'assez petite taille, et on a des buissons de baies qui sont greffés sur des petits troncs courts d'à peu près 1 mètre de haut, là, ce qui dégage très bien le sol. Donc là, on a des centaines de végétaux. Il y a même des plantes grimpantes comme des lianes dans les forêts tropicales qui poussent sur le tronc des fruitiers et qui sont chargées de mûres, par exemple, etc. Là, j'ai de la sauge. Là, c'est de l'hélichryse. Ici, on a des framboises. Et puis là, je vais vous montrer. J'ai des lianes qui sont chargées de mûres géantes. On a jusqu'à 10 kg de mûres par pied.
Ah oui, là, les fruits sont en train de mûrir. Voilà. C'est vrai que c'est incroyable, la densité de fruits par branche. Vous allez faire des bonnes confitures, là?
Voilà. et en fait, l'intérêt de ça, c'est que, je veux dire, cette liane qui grimpe sur un tronc de cerisier, en l'occurrence, pour moi, c'est zéro boulot. Et 10 kg de mûres, ben, je crée une valeur certaine. Et en fait, je vais même dire, je crée beaucoup plus de valeur à vendre des mûres qu'à vendre mes légumes, pour beaucoup moins de travail. Et pour gérer ça, j'ai besoin de quoi maintenant qu'elle est plantée? Un sécateur, 3 paniers, et c'est tout, quoi. Cette petite bande de 200 mètres carrés cultivée, en année 3, l'année dernière, elle a produit 5700 euros pour 110 heures de travail seulement. C'est relativement hors catégorie par rapport à un système agricole classique.
Oui, mais après, l'idée d'ici, c'est que vous, évidemment, vous faites avec votre écosystème, avec les essences locales, avec ce que l'on mange localement, mais la philosophie, les preuves agronomiques que vous accumulez sont à destination d'agriculteurs, de maraîchers du monde entier.
Ben, c'est ça, parce que quelque part, nos deux techniques phares viennent des temps anciens et viennent des peuples du Sud. Je fais référence à la culture sur les buttes permanentes et à ce système de forêt-jardin. Nous, on les teste ici, on les améliore peut-être à certains niveaux, en s'inspirant beaucoup d'ailleurs de maraîchers nord-américains et beaucoup des maraîchers parisiens du 19e siècle. Donc on croise les regards, on croise les expertises, Du coup, ça marche très bien parce qu'on s'appuie sur les choses qui, déjà prises isolément, marchaient très fort. Alors quand on les met en synergie, ça marche encore plus fort. Et du coup, ces techniques qui viennent du Sud, revisitées et éclairées par le regard de la science contemporaine, peuvent repartir vers les pays du Sud.
En fait, quand on visite votre ferme, on se dit que on est parti sur la mauvaise voie il y a des dizaines d'années pour l'agriculture occidentale. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Je me suis pris de passion pour l'histoire de l'agriculture parce qu'elle explique beaucoup de choses. En fait, je crois que le problème, il remonte au néolithique. Il remonte à l'invention de notre agriculture occidentale. Parce que les chasseurs-cueilleurs, quand ils sont devenus paysans, ils ont imité la nature environnante, mais ils ont sélectionné des plantes, des animaux qui les intéressaient pour diverses raisons. Mais ils imitaient quand même leur écosystème naturel. Et en Asie mineure, dans le croissant fertile, là où l'agriculture occidentale et du Moyen-Orient est née, c'était un écosystème de steppe, de grandes plaines. Donc ils se sont mis à cultiver des graminées qui ont donné nos céréales. Et puis ils se sont mis à élever des animaux des steppes, des ovins, des bovins, des caprins, des équidés. Et quelque part, ça donnait le pool d'espèces animales et végétales qui domine aujourd'hui toute l'agriculture mondiale. Et quand ces agriculteurs ont quitté les plaines d'Asie mineure et ont été en Afrique du Nord ou en Europe, ils se sont heurtés à des milieux beaucoup plus boisés. Et ils ont coupé les arbres, ils les ont brûlés, et ils ont laissé leur troupeau divaguer et bloquer la régénération de la végétation, parce que les chèvres, notamment, sont capables de bouffer des matériaux très ligneux et de les digérer. Donc, entre le feu, la dent des animaux, ils ont ouvert les espaces. Ils n'aimaient pas les arbres, parce qu'ils venaient des plaines. Les désastres écologiques liés à ce type d'agriculture remontent à la préhistoire. On pense maintenant que la zone du Sahel et d'Afrique du Nord a été largement désertifiée par les premiers agriculteurs. Il y a un géographe romain, Strabon, a dit qu'un écureuil pouvait passer des Pyrénées jusqu'au détroit de Gibraltar, c'est-à-dire traverser toute l'Espagne sans mettre pied à terre. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est un grand désert, l'Espagne. Et c'est tragique.
Et aujourd'hui, avec la mécanisation et les produits chimiques, on a quoi ? Encore plus accru cette désertification ?
Exactement. C'est-à-dire que nos agriculteurs occidentaux sont restés sur un modèle de steppe, un imaginaire de milieu ouvert, où les arbres étaient des empêcheurs de tourner en rond. Et du coup, avec la mécanisation, la révolution verte, on a encore plus coupé les arbres et on a encore accéléré la désertification. Et c'est tragique parce qu'on a perdu 30% des terres arables de la planète qui ont été désertifiées depuis 60 ans, depuis l'essor de l'agriculture industrielle. Et c'est tragique parce que vont manger nos enfants demain ? Et ce que je voulais encore ajouter un autre truc, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, à peu près 80% des fermes font moins de 2 hectares. Et nous, grosso modo, le cœur intensif de la ferme, il fait 1,2 hectare. Donc, quelque part, même si on est en Occident, on est tout à fait dans la configuration d'une petite ferme paysanne, familiale, entièrement manuelle, des pays du Sud. On n'a pas le même climat, on n'a pas le même contexte sociétal, mais au niveau technique, on est quand même très proche. Donc, ce qui s'expérimente ici peut être une sorte de petit laboratoire à partager avec nos confrères de toutes les latitudes.
C'est ce qu'on essaye de faire avec cette émission, c'est un début.
Oui, et puis on accueille beaucoup d'Africains ou d'ingénieurs agronomes d'ailleurs. On a l'autre jour accueilli les responsables d'une ONG du Népal. On a la chance d'être beaucoup visités. La semaine dernière, j'avais un maraîcher du Mali et du Bénin. Et donc, on se nourrit de tous ces partages d'expériences. On apprend les uns les autres. On a accueilli des formateurs de paysans de RDC pendant plusieurs mois. On discutait, comment vous faites, vous ? Ah, vous faites comme ça, nous on fait comme ça. Et on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Voilà la campagnole, ça c'est un outil qui a été inventé à la ferme en partenariat avec Vincent Legris, un jeune artisan talentueux. Parce que ici, on a des bandes de terre cultivées très très denses. Vous voyez, là il y a plein de légumes. Et en fait, ce sont des buttes permanentes, mais c'est une évolution, je dirais, moderne qui est née aux États-Unis de ces buttes permanentes. Elles sont en fait aplaties de manière à pouvoir utiliser un semoir professionnel multi-rang, c'est-à-dire avec plusieurs rangs. Et du coup, on a créé cet outil. Alors, si je peux faire la démonstration.
Oui.
C'est un outil très simple qui fait 80 cm, ce qui est la largeur de ma planche permanente, plate. Et j'ai des dents verticales, hop, là je suis en train de les enfoncer dans le sol. Et j'ai deux leviers que je bascule en arrière. Et ça me fait remonter mon sol. Et les mottes sont brisées entre des dents horizontales qui sont posées sur le sol. Et ce qui fait que mon sol est décompacté, aéré, ça brise les mottes, sans le déstructurer, dans le respect du sol. Là, on voit jusqu'à 25 rangs de légumes sur 80 cm de large. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire plus. Donc j'ai la forme de maraîchage la plus productive qui soit, avec les outils les plus simples du monde, quoi. Je vais ajouter que les plans sont sur notre site. On n'a pas voulu breveter cet outil, il est en open source. Donc les forgerons de tous les pays peuvent le fabriquer. On préfère que ce soit les forgerons locaux plutôt que des industriels, évidemment. Et il est en open source.
Alors vous êtes où, Perrine? Ça y est, on vous a retrouvé. Ah, c'est la récolte des concombres.
C'est ça.
Vous en avez plein les mains.
J'en ai plein les mains et je vais les porter dans une caisse pour pouvoir les envoyer après aux clients.
Donc, votre mari s'inquiète. Ça va, vous allez bien dans cette serre par 45 degrés?
Oui, parce que c'est une question d'habitude. Puis là, je suis à l'ombre de la canopée concombrière. Donc, non, c'est très agréable. Ça gratouille un petit peu, mais c'est pas désagréable. Et puis, en fait, la chaleur, une fois qu'on est en activité dedans et qu'on est bien protégé, comme je le suis, il n'y a pas de problème. C'est tout à fait tolérable.
Bon, la récolte a été bonne?
La récolte est particulièrement bonne en ce moment, en dépit de la chaleur, en dépit de la canicule. Le concombre, en l'occurrence, s'épanouit. Les tomates également. En fait, tous les légumes estivaux aiment ce temps-là. Il faut bien surveiller, leur donner un minimum d'irrigation. Mais sinon, oui, ça part très bien.
Allez, bonne récolte. On vous laisse travailler. On ne vous dérange pas de plus. Bonjour Gauthier Chapelle.
Bonjour.
Alors en fait, on se connaît, on se retrouve là par hasard à la ferme du Bec-et-Loing, mais on vous a déjà reçu plusieurs fois dans cette émission pour parler de biomimétisme, pour parler avec Pablo Servigne du livre que vous avez écrit sur l'effondrement qui annonce la fin de notre civilisation occidentale, mais aussi sa renaissance autrement. Et en fait, vous faites partie du comité scientifique de la ferme du Bec-et-Loing.
Oui, tout à fait, parce que le travail qu'ils font ici à la ferme répond tout à fait au changement de récit dont on a besoin, à la sortie du pétrole et à une économie qui régénère plutôt que juste qui fait moins mal. Puis comme on avait des compétences à croiser, voilà, ils nous ont demandé d'embarquer. Je dis nous parce que Pablo est aussi dans le conseil scientifique.
Et alors ici, vous avez notamment étudié la biodiversité, parce que c'est vrai que quand on arrive, ça a beau être une ferme, on sent une ambiance particulière et il y a une biodiversité, ne serait-ce qu'à l'œil nu, qui est extrêmement impressionnante, mais vous avez regardé d'un peu plus près.
Oui, effectivement. Moi, dès la première visite, ça fait 6 ans maintenant, moi, j'avais été soufflé parce qu'on vient dans une exploitation agricole, pour employer les mots qui fâchent. Et moi, j'avais l'impression de rentrer dans une petite réserve naturelle, d'autant que même si le contexte ici de la vallée est bon...
Alors, vous dites le contexte est bon parce que c'est une vallée sous protection Natura 2000, donc protégée.
Oui, au départ, c'est quand même pas de l'agriculture intensive ici dans la vallée, mais par contre, c'est de l'agriculture quand même extrêmement monotone, quoi. Et là, on arrive ici et on sent tout de suite qu'on est dans un oasis de vie, et d'abord on le sent un peu comme naturaliste, et puis quand on regarde de plus près, et effectivement, Charles et Perrine m'ont demandé de regarder plus spécifiquement les oiseaux, qui sont un de mes groupes de prédilection, et on a fait un petit coup de sonde sur deux périodes du printemps, et on arrive à non seulement un nombre d'espèces assez élevé pour une exploitation agricole, encore une fois, mais aussi avec quelques espèces un peu phares, notamment des espèces qui font partie du cortège des espèces menacées des plaines agricoles, je pense à la linotte mélodieuse, pour en citer une ou l'autre, ou au bouvreuil, et puis des espèces même carrément pour moi étonnantes sur une ferme, des espèces que je n'observe même pas très souvent dans ma vie de naturaliste, comme le rouge-queue à front blanc ou le gobe-mouche gris, qui sont des espèces insectivores assez exigeantes écologiquement, comme on dit, et qui manifestement trouvent leur bonheur sur la ferme. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. Pour nous, c'est impressionnant.
Donc ça veut dire qu'il y a réellement un écosystème qui a été recréé ici, alors qu'à l'origine, c'était un pâturage.
Oui, tout à fait. On garde les espèces de pâturage et en même temps, on a toutes les espèces de bocage, mais de bocage de qualité. Alors encore une fois, on a aussi l'avantage de la rivière, là, on est au-dessus, là, qui attire aussi et qui permet des micro-habitats spécifiques pour les bergeronnettes, le martin-pêcheur, etc. L'activité agricole pourrait avoir chassé ce genre d'espèces. Et non seulement elles sont là, mais elles se portent très bien.
Ce qui prouve que, pour revenir à vos premières amours, au biomimétisme, quand l'homme imite la nature est généreuse.
Absolument. Quand on laisse faire la nature et quand on fait avec elle en s'en inspirant, elle peut continuer à donner toute son abondance et sa diversité, qui sont les deux clés de la résilience ensemble. Et ici, on est vraiment dans un exemple. Et là, on a juste parlé des oiseaux, mais d'autres amis et collègues ont étudié les vers de terre, les coléoptères et en tout cas aussi les abeilles solitaires, dites abeilles solitaires. Et dans tous les cas, on retrouve cette abondance vraiment qui sort du lot. Et, abondance et diversité, surtout diversité qui est étonnante.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
C'est pas du vent sur RFI, nous sommes en Normandie, dans le nord-ouest de la France, une région connue pour ses vergers de pommiers, ses vaches qui font du lait qui fait des bons camemberts réputés dans le monde entier, mais qui est connue aussi pour la ferme du Bec-et-Loin qui a été créée à partir du début des années 2000 et qui petit à petit fascine, attire les scientifiques et les agriculteurs et maraîchers du monde entier parce qu'elle est novatrice sur plein de techniques. Vous en avez déjà entendu certaines. Et Charles-Hervé Gruyé, vous êtes avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs avec votre femme Périne de cette ferme. Votre slogan, si on peut dire ça comme ça, c'est « Comment nourrir l'humanité tout en guérissant la planète ». En fait, ici, vous préparez l'agriculture de l'après-pétrole parce que cette transition de l'agriculture, c'est un des leviers essentiels. C'est peut-être le premier d'ailleurs.
On a besoin de quoi finalement pour vivre? On a besoin de manger et de boire essentiellement. On n'a pas forcément besoin d'un smartphone ou d'une machine à laver. Donc l'agriculture, c'est quand même le socle de toute économie, et j'ai même c'est le socle de toute civilisation. Et qu'est-ce qui permet à l'agriculture de prospérer? C'est en premier lieu des sols vivants, des sols fertiles. Donc une terre fertile, c'est le fondement de nos sociétés humaines. Et si on détruit le sol, on détruit nos sociétés humaines et on sombre dans le chaos. Donc prendre soin du sol, planter des arbres, ça assurera la paix du monde de demain. Et à partir du moment où les paysans vivront bien et seront en capacité de continuer à produire, les autres classes de la société pourront prospérer. Les artisans, les commerçants, les éducateurs, etc. Tout le monde de la culture. Mais s'il n'y a plus de paysans, il n'y aura plus de vie et nos sociétés s'effondreront. Donc à partir de ce basculement d'une agriculture industrielle vers l'écoculture, on peut imaginer une autre manière d'habiter la Terre et qui nous permettrait de solutionner en cascade à peu près tous les grands défis auxquels est confrontée l'humanité d'aujourd'hui.
Merci à Périne et à Charles-Hervé Gruyé pour leur accueil. Pour transmettre leur expérience, ils viennent de publier la Bible de l'écoculture, 1048 pages d'explications détaillées écrites patiemment pendant 6 ans. Le trio de livres s'appelle « Vivre avec la terre » et il est publié chez Actes Sud. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver la ferme du Bec-et-Loin en images sur notre page Facebook et sur la page internet de l'émission. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.